Donc, on va essayer de vous présenter en deux temps. On va commencer ce matin, on terminera cet après-midi, un peu le résultat de notre travail d'enquête donc, depuis mars dernier. Et alors, pour commencer, on a essayé de synthétiser sur une seule diapo un petit peu toute la galaxie de votre travail, de vos difficultés, de ce qui vous aide, de ce qui vous fait obstacle. Voilà. Donc, première chose, et c'est cette espèce de fond bleu, vous travaillez sur un territoire. Et donc, une des questions qui se pose à vous, c'est quelle articulation entre l'éducation nationale, l'école et ce territoire, avec tout ce que ça peut recouvrir en termes d'habitat, de structure, de ressources, de difficultés, etc. Deuxième chose, vous travaillez avec un ensemble de structures à l'intérieur de l'éducation nationale, vous le savez aussi bien que moi, et ce qui est très compliqué pour vous, c'est que l'ensemble de ces structures, vous devez essayer d'en faire un réseau. Or, un réseau, par définition, ça n'existe pas. Ce n'est pas un espace fonctionnel de travail pour l'ensemble des personnes qui travaillent dans les écoles, au collège, à la circo. Il n'y a aucune personne à part vous qui travaille dans le réseau, dont le réseau est la préoccupation principale. Le chef d'établissement, même s'il est pilote, il a quand même son établissement à diriger. L'IEN, il a sa circo, et c'est pas dit que toute la circo soit en éducation prioritaire, le réseau, c'est pas forcément sa première préoccupation. Le directeur d'école, pareil, il est centré sur son école. Les enseignants, ils sont encore plus centrés sur le cœur de leur classe. Et il n'est pas gagné du tout que pour un enseignant dans sa classe, le réseau d'éducation prioritaire, ça fasse sens. Et avec tous ces gens-là, vous êtes la personne dont on dit que voilà, le travail, c'est le réseau. Et en même temps, si vous êtes tout seul, bah, faire réseau avec soi-même, ça ne va pas nous mener bien loin. Donc voilà, tout l'enjeu de votre travail, c'est d'essayer de faire en sorte que, quelque part, pour l'ensemble des personnes qui sont là, ben, le réseau, ça fasse sens, et ça fasse sens au service d'un objectif. Et c'est pas n'importe lequel. Réduire les écarts de réussite scolaire entre les enfants des réseaux et les autres. Et c'est pas une mince affaire. Ça fait longtemps que la sociologie nous dit que ben voilà, l'école française, c'est compliqué en termes de reproduction ou de renforcement des inégalités sociales. Et vous, votre job, c'est de mettre tout le monde en relation au service de cet objectif-là pour essayer de faire avancer un petit peu, de faire un petit peu bouger les choses pour réduire ces fameux écarts. Sacré challenge. Et en même temps, vous pouvez pas aller voir les gens de but en blanc en leur disant « bon, on dit... Là, il faut qu'on travaille ensemble parce que tu ne fais pas assez bien réussir les élèves. » Quand vous allez voir l'enseignant dans sa classe, vous allez peut-être commencer par essayer de comprendre comment vous pouvez l'aider à faire déjà son boulot, et faire des choses utiles pour lui, avant de pouvoir commencer à travailler avec lui sur comment éventuellement on pourrait réduire les écarts de réussite scolaire dans sa classe. Et donc, ce n'est pas du tout dit que cet objectif-là, qui est la raison d'être des réseaux, ben, ça soit finalement ce qui organise le cœur du travail et de la collaboration. J'allais dire que c'est notre challenge, mais c'est à gagner tous les jours. Alors pour ça, vous avez un certain nombre d'outils, mais qui ne seront des outils qu'à partir du moment où on s'en sert. Le référentiel de l'éducation prioritaire, nous pensons que c'est un outil et un prescrit qui est bien conçu, qui peut être une aide au travail, mais ça ne devient un outil qu'à partir du moment où on s'en sert dans le travail avec les autres sur le réseau. Et qui dit s'en servir, ça veut dire le mettre à sa main. Le traduire. Pas soit tout seul, mais aussi avec les autres. Les lettres de mission, on n'en a pas dit deux mots. Est-ce que la lettre de mission, c'est la longue liste des choses qu'il faudrait que vous fassiez mais que vous n'arrivez pas à faire? Est-ce que ça vous aide vraiment dans votre travail? Ou est-ce que c'est un cadre qui vous sécurise et qui vous dit, bon, ben voilà la longue liste des choses sur lesquelles il faudrait essayer d'avancer, mais il va bien falloir prendre les choses par un bout. Et chacun, en fonction de votre réseau, de votre histoire, etc., et de vos pilotes, vous n'allez pas prendre forcément les choses par le même bout. Même chose, le projet de réseau, en fonction de la manière dont vous avez passé du temps avec tout le monde dans le réseau pour le concevoir. Est-ce que les enseignants ont été associés à ces rédactions? Est-ce que c'est les pilotes qui l'ont écrit dans leur coin? Est-ce que c'est du coup un joli bout de papier, mais qui va finir dans un tiroir et qui ne sera pas l'organisateur du travail du réseau sur les années qui viennent? Enfin, toutes ces questions-là, vous le savez, c'est bien dans la manière d'utiliser ces outils que va se jouer les choses. Et une chose qu'aurait pu dire un ancien collègue du Centre Savary qui s'appelle Simon Flandin, qui travaille maintenant à l'Université de Genève, le projet de réseau, peut-être que ce qui pourrait être intéressant, c'est ce qu'il appelle de la conception continuée dans l'usage. C'est pas parce qu'on l'a écrit une fois qu'il faut pas revenir dessus, le faire évoluer et le remettre sur le métier. Idem pour le plan de formation. Une des choses qu'on a beaucoup vues dans l'enquête, c'est la question des espaces de travail. Pour que vous puissiez travailler, vous avez besoin d'espaces de travail, parce que, oui, votre travail de coordinateur, vous ne le faites pas dans la classe, donc il faut bien qu'il y ait des espaces aménagés. C'est ces instances de pilotage, ces instances officielles, on y reviendra. Il n'est pas non plus gagné que ce soit de vrais espaces de travail. Est-ce que le comité de pilotage de réseau, il s'y fait du travail? Deuxième question, et là je l'ai mis ces instances au niveau du territoire. Que se passe-t-il au niveau des instances du territoire? Des instances de la politique de la ville, des instances locales? Est-ce que vous y participez? Est-ce que vous êtes missionné pour y participer? Et qu'est-ce qui s'y passe? Est-ce que ce qui s'y passe, ça favorise, ça va vraiment dans le sens des objectifs du réseau? Et du coup, une des grandes questions aussi pour vous, c'est quelle articulation entre ces deux espaces? Ce qu'on a essayé de formaliser dans les réponses qui ont été faites dans le questionnaire et dans le travail qu'on a conduit, dans un certain nombre d'espaces de travail. Donc, 5 espaces de travail pour le coordonnateur, tout ce qui relève du pilotage et de l'organisation, tout ce qui relève des actions pédagogiques, ce qui relève de la formation et ce qui relève des partenariats. Et tout ça, c'est compliqué. C'est compliqué parce que sur chacune de ces sphères de travail, il y a un certain nombre de dilemmes, un certain nombre de tensions, un certain nombre de difficultés, et chacun vous arbitrez différemment en fonction de vos ressources et de l'endroit où vous travaillez. Et puis, ce qui est compliqué, c'est comment on les articule, toutes ces sphères de travail. Vous voyez bien que si le pilotage et l'organisation est complètement déconnecté de la question de la formation, et puis on reviendra aussi plus en détail sur une sphère de travail qui historiquement en plus est au cœur du métier du coordonnateur, c'est la liaison interdegré. Alors, on a essayé, à partir de l'enquête, de recenser comment et quoi font les cordeaux. Qu'est-ce qu'ils font? Comment ils s'y prennent? Et on a essayé de recenser comme ça un certain nombre de verbes qui revenaient régulièrement dans l'enquête. Donc, impulser, accompagner, formaliser, valoriser, aider à l'analyse, faciliter, faire avec. Et on voit bien que c'est bien le gros enjeu du cordeau. Traduire. Traduire, et on en parlait déjà ce matin, traduire est déjà aussi le prescrit. Si on n'a pas d'espace pour traduire ensemble les différents items du référentiel d'éducation prioritaire, ça restera des petites phrases dans un livre bleu. Ça revient très nettement dans l'enquête. Ce qui vous permet de faire, c'est de ne pas avoir de fonction hiérarchique. C'est ce qui vous permet de travailler avec les collègues, les enseignants. C'est ce qui vous permet de travailler aussi avec les pilotes. Et peut-être que vous avez remarqué que parfois, c'est plus compliqué pour l'IEN et le chef d'établissement de travailler ensemble en étant tous les deux responsables de deux choses différentes. Et peut-être que le fait de ne pas avoir de fonction hiérarchique, c'est ce qui vous permet peut-être de les aider aussi à travailler ensemble. Être plusieurs, avec tout ce que ça peut recouvrir, à la fois pour pouvoir penser un petit peu comme pensent toutes les personnes avec qui on a travaillé, mais aussi se mettre à plusieurs pour pouvoir avancer. On a recensé ce que vous nous disiez d'un certain nombre de freins dans votre travail, qui reviennent régulièrement. le flou de la mission pour soi et pour les autres. Le fait de ne pas avoir un cadre de travail clair, c'est pas forcément une aide au travail. Comme on le disait, on a besoin de prescrits. Et puis, travailler avec les autres quand les autres ne savent pas ce que vous faites, ça aussi, ça peut être compliqué. On l'a déjà évoqué ce matin aussi, la question de la reconnaissance institutionnelle. La question du temps qu'on passe sur la fonction. Ce que disait Alexandra dans le petit film tout à l'heure, rien n'est acquis. C'est-à-dire que, en fonction des nouvelles personnes qui arrivent, des nouveaux pilotes, des nouveaux enseignants, et ben, ou parfois de nouveaux réseaux, il faut remettre les choses en chantier, il faut réexpliquer, il faut Et puis ça fatigue tout ça. Une des choses que vous dites beaucoup dans l'enquête, ce qui est compliqué, c'est que ça dépend beaucoup des pilotes. Et parfois, ça peut même tellement compliqué que ça devient difficile de travailler. Parfois, ça se passe super bien. Parfois, le prescrit n'est pas toujours aidant. Et là, une chose qui est remontée énormément dans toutes les rencontres qu'on a eues en académie avec les coordonnateurs et les formateurs, c'est parfois ces réformes qui se bousculent l'une l'autre. Je pense qu'on peut partager ensemble le fait que la réforme du collège dans le second degré est venue bousculer la mise en place de la réforme de l'éducation prioritaire. Parce qu'il n'a pas toujours été simple de montrer la cohérence et l'articulation entre ces deux réformes. Une chose dont vous dites aussi que c'est compliqué, c'est la confrontation entre le pilotage départemental et académique. Là encore, on a eu des exemples ce matin. Et même parfois, quand le département et l'académie, c'est le même territoire dont vous nous parliez sur la réunion, c'est pas dit que forcément les choses sont simples aussi. Et ça, c'est pas parce que certains seraient méchants d'un côté et d'autres gentils de l'autre. C'est parce qu'il y a vraiment des organisations administratives, parfois, qui font que c'est compliqué. Parfois aussi, il y a des enjeux de pouvoir. Et ça aussi, c'est pas simple. Et là, ça peut paraître paradoxal. Dans le questionnaire, vous vous plaignez à la fois de ne pas avoir assez d'autonomie et parfois d'en avoir trop. Cordeau, soit on le laisse, vas-y, fais ton boulot de cordeau, on a d'autres choses à faire. Soit on a des cordeaux qui sont extrêmement, voire trop cadrés dans leur travail et qui se sentent du coup un petit peu empêchés de faire ce qu'ils ont à faire. Des questions qui sont revenues et qu'on a pas mal évoquées dans le travail en séminaire avec les collègues coordonnateurs qui sont venus. Comment soutenir et accompagner les concertations? Comment faire en sorte que le travail de concertation soit effectivement productif, fructueux? Comment faire en sorte que le travail qu'on fasse ne soit pas perçu comme une contrainte ou quelque chose en plus? Qu'est-ce que le réseau va nous faire gagner? Et enfin, une des choses, et qu'on aura l'occasion de réévoquer, c'est que quel collectif, quel soutien pour vous, Cordeau? Est-ce que vous êtes isolé? Est-ce que, au niveau départemental ou académique, il existe des rencontres régulières qui vous permettent de constituer des collectifs avec les autres Cordeaux du département ou de l'académie? Est-ce que vous faites cette constitution de collectif aussi de manière informelle? Est-ce qu'il y a des listes de discussion des cordeaux dans l'académie que vous seriez auto-organisé là-dessus? Ce qui soutient aussi, c'est le pilotage académique. C'est la confiance et la stabilité des pilotes. C'est sûr que quand dans une circonscription, il y a eu 7 IUN qui ont défilé en 8 ans, le travail n'est pas simple. Voilà un petit peu le portrait qu'on a essayé de synthétiser de ce travail d'enquête. Étant donné qu'on a le temps, je vous propose qu'on ait un petit échange par rapport à ça, à cette photographie qu'on vous renvoie, voir si elle vous parle, si elle correspond à ce que vous faites, à ce que vous ressentez.
Bonjour, Jean-Marc Bonnen, je suis adjoint auprès du responsable de la mission académique pour l'éducation prioritaire à Paris. Et une question concernant l'enquête, j'ai cru voir au début, donc vous avez interrogé tous les coordonnateurs de France, ou bien vous avez choisi d'en sélectionner un certain nombre. Est-ce que c'est... Et puis j'ai cru voir aussi qu'il y avait une différence entre réseau, coordonnateur, comme on a vu que beaucoup de coordonnateurs avait plusieurs réseaux. Donc, quelle est la proportion un petit peu du taux de réponse ?
Donc, sur les potentiels, à peu près 1000 coordonnateurs en France, donc on a adressé l'enquête à l'ensemble des coordonnateurs par tous les réseaux qu'on pouvait avoir, on a eu 126 réponses valides, on va dire. Voilà. On s'en excuse, un questionnaire qui était un peu long. Donc, en tout, il y a eu 200 personnes qui ont commencé à remplir le questionnaire et un certain nombre ont abandonné en route. Donc, voilà, on a 126 réponses valides sur lesquelles on a basé l'ensemble du travail d'enquête qui va vous être présenté.
Pour être encore plus précis sur la diffusion, il ne s'agit pas d'une enquête officielle qui a été envoyée par une structure telle que le Bureau d'éducation prioritaire et qui aurait bénéficié de tous les relais institutionnels, etc. C'est une enquête que nous avons diffusée par nos réseaux. C'est-à-dire, nos réseaux, c'est nos listes de diffusion, nos adresses, les gens qui viennent sur notre site, les différentes reprises qui ont été faites de cette question par les réseaux sociaux, etc. Donc, si vous l'avez reçu, c'est parce que vous étiez dans l'un des canaux avec lesquels on communique. Et bien évidemment, il y a sans doute beaucoup de collègues qui n'ont pas été touchés escalité par cette proposition. Hein. Ça n'a pas de... voilà. Par contre, ce qui est sûr, c'est que quand nous présentons les résultats, et encore une fois, en vous regardant tout de suite, écoutez Stéphane, on se dit que le panel sur lequel on est relativement stable parce que ça a été le support de plusieurs réunions que nous venons de mener avec des équipes de cours d'eau à la demande des inspecteurs d'académie ou des rectorats. Et très clairement, la nature du travail que nous avons mené dans ces espaces-là a plutôt confirmé, on va dire, la manière dont nous organisons les différentes questions qui nous semblent se poser dans le travail des cours d'eau.
Je me représente pas, j'ai déjà fait. Moi, je voulais juste, j'ai pas eu l'occasion de répondre donc au questionnaire, mais en ce qui concerne l'autonomie dans la mission du coordonnateur, trop, pas assez. Moi, je trouve que la spécificité de cette mission, c'est justement qu'on ait quand même de l'autonomie, ce qui est intéressant. Vu qu'effectivement, on n'a peut-être pas forcément la même mission selon la circonscription sur laquelle on est. Ça nous permet aussi de réfléchir la façon dont on va mettre en place selon la spécificité des réseaux sur lesquels on est. Trop pas assez, non, je suis pas d'accord. Et puis il faut surtout pas que la mission elle soit enfermée dans un cadre au-delà de la lettre de mission dans laquelle effectivement qui nous donne un cadre. Bon, il faut justement cette liberté un petit peu d'action.
Vous êtes coordonnatrice depuis combien de temps ?
9 ans.
9 ans. La question se pose au regard de, ouais, pour beaucoup de jeunes coordonnateurs.
Voilà. Hein ? Et justement, alors je vais juste un instant, rapidement, par rapport à ce que disait la collègue qui est un petit peu perdue dans sa première année. Bon, je l'ai vécu aussi. Après, par rapport effectivement à l'IEN avec lequel je travaille depuis ces 9 ans, il n'a pas bougé, il m'a beaucoup apporté, c'est-à-dire que c'est lui qui m'a présenté les partenaires, qui m'a emmené aux différentes instances, ça m'a beaucoup aidé ça, hein, c'est quand même grâce à lui. Hein.
En fait, le flou de la fonction aussi et le fait qu'on soit autonome, moins autonome et tout ça, en fait, nous, à Toulouse, on a vécu quand même une évolution qui a fait que le travail aussi a changé. C'est que, au départ, à l'origine, les coordonnateurs travaillaient au sein de l'équipe de circonscription. Et pour des raisons X, à Toulouse, à un moment donné, tous les IUN ont été regroupés dans un endroit. Et donc, du coup, il n'y avait pas de place pour les coordonnateurs. Donc, on a été complètement coupés, du coup, de la circonscription. Ce qui fait qu'en fait, les inspecteurs qui se sont succédés sur ces postes-là ont perdu tout l'historique, en fait, et donc une méconnaissance de notre travail, ça c'est sûr. Et du coup, moins de liens sur le terrain. Alors qu'avant, on faisait vraiment bloc, j'allais dire, on structurait l'action entre conseiller pédagogique, IEN et coordonnateur, ce qui nous donnait aussi un poids vis-à-vis du second degré. Et nous aussi, à l'intérieur, on avait une légitimité, comme tu dis, Elisabeth. Donc du coup, ça a évolué et on a perdu tout ça. Et je trouve que du coup, la fonction est beaucoup plus floue, quoi.
Dans votre académie, vous parlez des évolutions du regroupement des IUN. Est-ce qu'à votre connaissance, il y a eu aussi des évolutions dans le pilotage académique, éducation prioritaire ou départementale, qui nourriraient aussi ces évolutions de votre perception du pilotage ?
Alors, là aussi, ça a évolué. Selon les IA, on va dire, adjoints, qui s'occupaient plus particulièrement de l'éducation prioritaire, donc à certains moments, ils étaient très présents, donc ils pilotaient énormément. Puis ensuite, on a eu une période où plus du tout, on avait l'impression que l'éducation prioritaire, elle n'existait même pas. Et là, de nouveau, on est restructuré en groupe de travail. On a aussi des réunions qui sont pilotées par un IUN spécifique éducation prioritaire. Des réunions qui nous conduisent à périodiquement nous retrouver, toutes les périodes à peu près. Et donc là, c'est forcément le travail est plus intéressant, quoi.
Donc on insiste sur à la fois sur cette confrontation d'expérience et puis nourrir notre activité de collective d'exemple. C'est parce que effectivement, on va voir au fur et à mesure des échanges et du travail combien toutes ces variables là, ce sont des variables essentielles. Et comme l'a dit quelqu'un tout à l'heure, quand on arrive sur le poste, toute cette technostructure, toute cette sphère, toute cette galaxie qui existe dans l'articulation entre le départemental et l'académique, elle est très souvent, pour les métiers qui arrivent sur cette fonction, ou pour les fonctions qui arrivent sur cette fonction, elle est invisible. Et comme elle est invisible, il faut la découvrir. Et par nature, on va penser qu'elle est organisée, structurée, efficace. Et elle n'est pas forcément plus organisée, structurée, efficace que tous les niveaux de travail. Parce que ce qui fait notre approche, et Stéphane vous l'a déjà dit, c'est quand on s'intéresse au travail réel des acteurs, c'est pas plus facile pour les inspecteurs que ça ne l'est pour les directeurs d'école, pour les coordonnateurs ou pour les enseignants. Les problèmes de travail que chacun doit affronter, la nature des collaborations professionnelles qui doivent être construites dans ces réseaux, comme l'a indiqué Stéphane, le niveau des différentes articulations entre le national, l'académique, le départemental, le bassin, le local, l'école, eh bien, toutes ces questions-là sont parfois tout simplement des impensées dans les institutions. C'est une réflexion qui est en train de se structurer, mais en tout cas, c'est une des choses dont on est un peu précieux. C'est qu'il en est du travail des pilotes comme du travail de tous. Entre ce qu'on leur demande de faire et ce qu'ils arrivent à faire, il peut y avoir des mains.
Au sujet de la diapo précédente, pour ce qui concerne les espaces de travail, je me rends compte et je suis assez surprise du fait que donc, moi je suis issue du premier degré et j'ai un bureau au collège. Alors l'avantage, c'est que je me retrouve plongée dans le milieu du second degré. Je suis plutôt bien repérée par les professeurs du collège. En revanche, je travaille assez régulièrement du coup avec le principal, la principale adjointe. Mais je me rends compte que j'ai très très peu de contact avec mon IEN et avec les CPC. Et je me sens un peu lâchée. Enfin. Voilà. Et du coup, je ne sais pas en plus si j'ai l'autorisation, entre guillemets, de me rendre régulièrement à la circonscription pour rencontrer les CPC, poser les questions que je peux avoir à poser, comme je peux le faire avec le principal et la principale adjointe que je rencontre quasiment tous les jours. Et
ce qui est intéressant dans ce que vous dites, c'est d'une part, c'est effectivement, on peut avoir le sentiment que certains, l'un ou l'autre des pilotes... on ne sait pas où il est et s'il est au courant qu'on est là. Ce qui est intéressant, c'est de se redire aussi que ce que disait Patrick, c'est que les chefs aussi, ils ont du mal à faire ce qu'on leur demande de faire. Et c'est normal. Et ils ont eu beaucoup de choses qui leur tombent, qui leur incombent. Et que parfois, c'est, si on veut les ramener sur le réseau, parfois, si on attend, on peut attendre longtemps. Donc il faut parfois s'autoriser. Et parfois, on a toujours peur que les supérieurs nous disent mais non, c'est pas possible. Mais parfois, simplement en allant rencontrer les gens, on se rend compte que c'est simplement que c'était pas dans son champ de préoccupation, mais qu'il est bien content que vous veniez le voir et travailler avec lui. Les pilotes se rendent souvent compte que le coordonnateur est une source d'information importante pour eux, parce que le coordonnateur peut ramener des informations qu'il n'a pas le temps d'aller chercher. Voilà. Mais encore faut-il que le responsable sache que vous pouvez lui fournir ses ressources.